Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette webcast PwC Focus consacrée au nouveau projet de règlement de l'ANC sur la modernisation des états financiers. Au cours de cette Webex, nous allons présenter les principales nouveautés apportées par ce nouveau texte pour vous aider à décrypter et anticiper les modifications à venir. Je suis Hélène Olivier, directrice au sein du département technique comptable chez PwC. PwC qui est l'auteur de tous les ouvrages de la gamme comptable publiés aux éditions Francis Lefebvre. Avec moi, pour vous apporter tous les éclairages nécessaires, Jean-Marie De Toc, directeur au sein du même département, et Stéphane Vial, senior manager fiscaliste. Au sommaire de cette Webex, tout d'abord, la nouvelle définition et la nouvelle présentation du résultat exceptionnel. Puis, les transferts de charges dont la suppression est prévue sont ensuite à relever dans ce projet des mises à jour du plan de compte, des modifications quant à la présentation des états financiers et une nouvelle présentation des informations en annexe. Et enfin, dans un dernier chapitre, nous aborderons comment se préparer à ces changements. Vous avez la possibilité de poster des questions sur le chat, questions auxquelles nous répondrons dans la mesure du possible à la fin de la présentation. Enfin, sachez que le podcast de cette webcast sera disponible sur notre site pwc.fr. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, un rappel en termes de calendrier de ce projet. L'ANC avait soumis à une consultation publique en juillet 2020 un projet de règlement. Après avoir reçu les commentaires d'un certain nombre d'entreprises et de la profession, notamment la CNCC, le collège de l'ANC a approuvé son projet de texte en date du 3 décembre 2021. Le futur règlement devrait être homologué au cours du premier semestre 2023. S'agissant des modalités d'entrée en vigueur du texte, il convient de noter qu'il est prévu que le collège de l'ANC se prononce d'ici la fin de l'année sur ce sujet, avec en particulier un chapitre très attendu sur la date d'application et les modalités d'application transitoire. A priori, le règlement s'appliquerait aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Il pourrait être appliqué par anticipation pour l'exercice en cours de sa date de publication, donc vraisemblablement dès le premier semestre 2023. Parmi tous les sujets de ce nouveau règlement, celui du résultat exceptionnel versus le résultat courant constitue un sujet d'ampleur. Je vous rappelle qu'à ce jour, le Code de commerce ne donne qu'une courte définition du résultat exceptionnel et qu'en pratique, les entreprises décident soit de suivre la liste des comptes du PCG et de classer en exceptionnel les éléments selon leur nature, les cessions, les pénalités, les indexations, soit de classer en exceptionnel les éléments issus des transactions particulières. Donc, dans ce cas-là, c'est en général une approche qui est retenue pour les sociétés, les groupes français qui consolident en IFRS, mais on le verra après, il peut y avoir divergence sur la notion de résultat exceptionnel dans les deux jeux de compte. La définition du résultat exceptionnel proposée dans ce projet cherche à rompre avec l'approche fondée sur la liste des comptes. Donc l'approche, la première approche que je vous citais, qui part des comptes du PCG. En effet, nous constatons une volonté du normalisateur dans ce projet d'aller vers une définition plus conceptuelle de l'exceptionnel et de laisser une place importante au jugement du préparateur de comptes. Alors, Jean-Marie, peux-tu nous dire ce que recouvre cette nouvelle définition du résultat exceptionnel ?
Oui, alors ce qu'il faut noter d'abord, c'est que les grandes lignes du projet présenté en 2020 ne changent pas. Le résultat exceptionnel est limité aux éléments qui résultent d'un événement majeur et inhabituel. Par majeur, on entend un événement dont les conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs portent sur les comptes. Et un événement est inhabituel lorsqu'il n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. L'ANC précise qu'il est présumé comme tel lorsqu'un même événement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables. Autre point important à avoir en tête, figure uniquement en résultat exceptionnel des éléments qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement. L'ANC confirme donc que tous les produits et charges liés à un événement pouvant être qualifiés d'inhabituels ne sont pas systématiquement des éléments du résultat exceptionnel. On l'a vu d'ailleurs avec l'exemple des conséquences du Covid, puisque les salaires, loyers et amortissements pendant cette période sont restés en résultat d'exploitation. Et enfin, les éléments inscrits par nature en résultat exceptionnel sont limités à deux catégories. Il s'agit des amortissements dérogatoires et autres provisions réglementées, mais aussi des conséquences de changement de méthode et de correction d'erreur, sauf quand ces conséquences sont inscrites en capitaux propres plutôt qu'en résultat en raison, par exemple, de l'application de règles fiscales. En synthèse, l'approche méthodologique à appliquer est fournie en infra-réglementaire avec un arbre de décision que vous voyez à l'écran. D'abord, il convient de se demander s'il y a un événement majeur et inhabituel. C'est la plus grande difficulté car elle est de l'ordre du jugement et dépend de la situation propre à l'entreprise. Si la réponse est oui, il faut s'interroger sur l'existence de produits et charges directement liés à cet événement. Si la réponse à cette question est également oui, la dernière étape consiste à se demander s'il s'agit de produits et charges supplémentaires qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement. Si la réponse à cette dernière question est aussi affirmative, alors ces éléments devront être comptabilisés en résultat exceptionnel. Tous les autres éléments sont donc exclus du résultat exceptionnel et inscrits dans le résultat courant, selon leur nature, en résultat d'exploitation ou en résultat financier. En outre, comme indiqué précédemment, l'ANC complète le résultat exceptionnel de certains éléments inscrits par nature. Donc en résumé, le résultat exceptionnel sera donc très différent d'une entreprise à une autre car c'est à l'entité de se prononcer sur la qualification de ses opérations au regard des faits et circonstances qui lui sont propres.
Merci pour ces précisions sur cette nouvelle définition et aussi pour la description de l'approche à dérouler. L'ANC donne des exemples pour illustrer la notion d'événement majeur et inhabituel. Enfin, elle en donne, hein, mais très peu en réalité, et ce, dans le souci de ne pas influencer le jugement du préparateur de compte, et parce que les cas peuvent être très différents d'une entreprise à l'autre. Parmi les exemples d'événements majeurs et inhabituels que l'ANC donne, elle cite le cas d'un désengagement ou d'un désinvestissement comme un abandon d'activité ou d'actifs qui n'ont plus de lien avec l'activité normale et courante de l'entité. Autre exemple, celui d'une expropriation ou d'une cyberattaque ou encore d'une catastrophe naturelle. Parmi les exemples, a contrario, d'opérations dont la réalisation concerne l'activité normale et courante de l'entité, l'ANC cite les achats, ventes et marchés qui font par essence partie de l'activité normale et courante des entités, et donc aussi les pénalités de marché, les dédits payés ou perçus sur les achats et les ventes, qui eux sont effectivement inscrits dans le résultat d'exploitation selon cette nouvelle conception, sauf si vraiment ces pénalités résultent d'événements majeurs ou inhabituels. Pour illustrer le fait que l'analyse du caractère inhabituel de l'événement peut être différente d'une entreprise à l'autre, l'ANC prend ensuite l'exemple d'un litige qui peut, pour une entité, constituer un événement majeur et inhabituel, alors qu'une autre entité peut considérer, au vu du caractère habituel de la survenance de ce type de litige dans le cadre de son activité, qu'il est lié à l'activité courante. Elle précise également que la qualification d'un même type d'événement peut évoluer au sein d'une même entreprise d'une période à une autre. Cela signifie que si, Un événement a été jugé majeur et inhabituel au cours d'un exercice N et que finalement, sur les exercices suivants, cet événement du coup est amené à se répéter, il perdra son caractère inhabituel pour le futur. Bien évidemment, la nouvelle appréciation de l'événement en cours, au cours d'un exercice ultérieur ne remet pas en cause la qualification qui a été retenue antérieurement. L'ANC indique à titre d'exemple qu'une opération de mécénat peut être qualifiée d'événement majeur et inhabituel en cours d'exercice. Et puis, ultérieurement, un exercice suivant, parce que l'entité décide de développer le mécénat, eh bien, ce mécénat perdra son caractère inhabituel et sera donc classé pour le futur en résultat courant. Enfin, bien qu'un événement majeur et inhabituel n'ait pas vocation de par sa nature à se reproduire d'un exercice à un autre, il peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les produits et charges directement liés à cet événement remplissent les conditions pour être classés en résultat exceptionnel, les produits et les charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel jusqu'à l'extinction des conséquences de l'événement. À titre d'exemple, dans l'hypothèse où une dotation ou provision remplit les conditions pour être comptabilisée dans le résultat exceptionnel, l'ANC indique que les charges réellement encourues et la reprise ultérieure de la provision sont constatées en résultat exceptionnel. Donc, on l'a compris, certes, il y a une approche méthodologique à dérouler, commune à toutes les entreprises, mais pour qualifier un événement de majeur et inhabituel au niveau d'une entité, c'est avant tout une affaire de jugement de la direction de l'entité et de justification de ce jugement. Pour essayer d'aller plus loin que les exemples donnés dans le projet de texte illustrant cette nouvelle définition, est-ce que l'on pourrait considérer d'autres exemples d'événements majeurs et inhabituels? Je laisse la parole à Jean-Marie pour cette question.
Merci. Alors, on peut sans doute ne pas prendre trop de risques en disant que pour toutes les entreprises, la cession ou la cessation d'une branche d'activité constituera invariablement un événement inhabituel non lié à l'exploitation normale et courante de l'entreprise, puisque par définition, il n'y a plus d'activité. Si bien sûr, on se place au niveau de l'entreprise et de ses comptes sociaux, car l'analyse peut être différente dans les comptes consolidés, on le verra plus tard. Il devrait en être de même pour une interdiction définitive d'exploiter. Par ailleurs, d'autres événements paraissent par nature inhabituels pour toutes les entreprises. Par exemple, une crise sanitaire ou politique, comme une guerre. Tous ces événements vont provoquer des arrêts d'activité, des dégradations, des pertes d'exploitation. Mais attention, on l'a dit tout à l'heure, comme l'ANC l'a rappelé, toutes les charges et produits liés à un événement majeur et inhabituel ne sont pas nécessairement à comptabiliser en résultat exceptionnel. Seuls les éléments qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement le seront. Par exemple, les dégradations, stocks perdus, des surcoûts non inclus dans les stocks, les dépréciations d'immobilisation destinées à ne plus être utilisées ou encore des indemnités de licenciement fournisseurs ou clients. En revanche, ne sont pas exceptionnels les loyers, charges de personnel, dotations aux amortissements qui auraient été constatées même en l'absence de ces événements. De même, l'ANC précise que les aides, remboursements et indemnités d'assurance directement liées à l'événement majeur et inhabituel et reçus en compensation de charges d'exploitation sont à classer en résultat d'exploitation. D'autres événements seront, selon les circonstances propres aux entreprises, parfois qualifiés de majeurs et inhabituels, mais sans que cela soit systématique. L'ANC évoque par exemple le cas des litiges. On peut aussi évoquer le cas d'une grève qui peut constituer un événement inhabituel si elle est due à une crise politique jamais rencontrée, mais sans doute pas si c'est un mode utilisé fréquemment dans l'entreprise. Autre cas à citer, celui d'une restructuration, qui peut constituer un événement inhabituel, sauf si elle est un mode habituel de gestion par l'entreprise. Une cession d'immobilisation peut également, pour une entreprise, relever de l'activité courante et pour d'autres, remplir les conditions d'un événement majeur et inhabituel. Si on reprend la doctrine de la CNCC, celle-ci prévoit que les cessions d'immobilisation par une entreprise de location de matériel constituent un produit d'exploitation puisqu'elles font partie de son activité courante. La CNCC a également indiqué que la plus-value de cession d'une immobilisation dans le cas d'une cession bail est à étaler en diminution des charges de loyer, donc en résultat d'exploitation. On devrait pouvoir constater en résultat d'exploitation la plus-value de cession, par exemple du siège d'une entreprise, dans le but de s'installer ailleurs, même en dehors du cadre d'une cession bail. De même, on devrait pouvoir classer en exploitation le résultat de cession d'une partie de son outil de production, décidé pour suivre l'évolution de son niveau d'activité, si cette décision procède d'un mode habituel de gestion, c'est-à-dire si l'entreprise a l'habitude d'adapter son outil de production à son niveau d'activité ou de le flexibiliser.
Oui, donc on voit bien que ce qui est clairement affiché, c'est que la nouvelle définition vise à restreindre le résultat exceptionnel. Ainsi, toute charge et tout produit qui était jusqu'alors par nature exceptionnel, comme les cessions, et d'ailleurs ça fait l'objet d'une des questions qu'on a reçues dans le chat, ne le seront plus nécessairement après analyse de l'opération. L'ANC a également précisé que le résultat exceptionnel sera désormais présenté sur une seule ligne, avec une présentation plus détaillée en annexe incluant les éléments liés à un événement majeur et inhabituel, avec une description de cet événement et indication des éventuels montants déjà inscrits au titre de cet événement au cours des exercices antérieurs. Et l'annexe devra également détailler les éléments d'origine purement fiscale ou nés d'un changement de méthode ou de correction d'erreur. Cette définition sera inscrite dans le PCG et elle concernera donc les comptes sociaux. Mais derrière, on se pose la question des comptes consolidés en règle française. Il n'y a pas dans le règlement ANC 2020-01, celui propre à l'établissement des comptes consolidés en règle française, de définition du résultat exceptionnel. Donc la nouvelle définition s'applique donc également aux comptes consolidés en règle française. Il pourra toutefois y avoir des divergences entre les comptes sociaux et les comptes consolidés du groupe, notamment lorsque une entité pourra démontrer à son échelle qu'un événement est inhabituel, alors qu'il ne l'est pas au niveau du groupe. L'ANC indique clairement que la nouvelle définition ne cherche pas une cohérence avec la définition des autres produits et autres charges d'exploitation non courants des comptes consolidés des groupes français en IFRS. Pour rappel, les autres produits et autres charges d'exploitation non courants des comptes consolidés en IFRS sont alimentés par les événements majeurs de nature à fausser la lecture de la performance de l'entreprise. Or, le projet de définition de l'ANC ne fait pas référence à cette notion de performance. Donc, il pourrait y avoir des divergences. Et ça répond effectivement à une question aussi posée sur le chat, sur la convergence ou pas avec les définitions de normes IFRS. Alors, autre point important, la question de savoir si la nouvelle définition poserait des problèmes fiscalement. Qu'en est-il, Stéphane ?
Bonjour à tous. Alors, sur le plan des principes, la jurisprudence du Conseil d'État s'inscrit dans une logique de connexion fiscalo-comptable. En effet, le Conseil d'État précise notamment pour déterminer si des éléments doivent être pris en compte pour le calcul le calcul de l'assiette de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE, qu'il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celle-ci ne soit pas incompatible avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. Donc, si demain, les règles du PCG suppriment toute possibilité de classer d'office une charge ou un produit en résultat exceptionnel du seul fait de sa nature et impose une analyse économique à chaque opération, la Direction de la législation fiscale, s'attend à des impacts sur le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette à la CVAE et sur la détermination de la réserve spéciale de participation des entreprises. En revanche, ce n'est pas le cas pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices. En effet, pour la détermination de la participation, une de ses composantes est la valeur ajoutée, qui inclut le résultat courant avant impôt. Or, le résultat courant avant impôt est défini comme la somme algébrique du résultat financier et du résultat d'exploitation, lequel serait donc modifié si des produits et des charges actuellement classés en exceptionnels devenaient des produits et des charges courants. Pour la CVAE, je vous rappelle en synthèse que la valeur ajoutée qui sert à son calcul inclut en principe le résultat courant et pas l'exceptionnel. La nouvelle définition du résultat exceptionnel aura donc un certain nombre de conséquences sur l'assiette de la CVAE. À titre d'exemple, les pénalités sur marché, classées aujourd'hui en résultat exceptionnel par le PCG, entreraient dans le résultat courant dès lors qu'elles font partie des activités ordinaires de l'entreprise. La plus ou moins value de cession d'immobilisation, classée en charge ou en produit exceptionnel lorsqu'elle n'entre pas dans le modèle économique de l'entreprise, pourrait être aussi comptabilisée différemment en application de la nouvelle définition du résultat exceptionnel. À l'inverse, des subventions d'investissement aujourd'hui comptabilisées en produits exceptionnels seraient à l'avenir comptabilisées en produits d'exploitation dès lors qu'elles ne sont pas liées à un événement majeur et inhabituel. Selon nos informations, la DLF devrait donc notamment entreprendre des travaux de mise à jour de la doctrine fiscale et des imprimés et formulaires déclaratifs fiscaux afin de tenir compte de ces évolutions comptables lorsque le texte comptable donc entrera en vigueur. Et on peut supposer que les juges suivront à l'avenir le classement comptable adopté par les entreprises, qui présentent un caractère impératif dès lors qu'elles auront correctement justifié leur position. Notons toutefois que ces impacts n'existeront que si la CVAE et l'application de ce nouveau règlement coexistent. Or, l'article 5 du projet de loi de finances pour 2023 prévoit la suppression de la CVAE à compter de 2024. Et selon toute vraisemblance, le nouveau règlement comptable ne serait d'application obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2025. Sous réserve donc de l'adoption définitive de la mesure du projet de loi de finances, les impacts du règlement sur la CVAE n'existeraient donc que dans l'hypothèse d'une application anticipée de ce nouveau règlement par les entreprises au titre de l'exercice 2024. Évidemment, tout cela est à suivre, car à date, ce ne sont que des calendriers prévisionnels.
Merci Stéphane. Passons maintenant au second volet de notre Webex, le volet consacré à la suppression de la technique du transfert de charges. Cela signifie que les comptes 791, 796, 797 seront supprimés du plan de compte et les postes transfert de charges seront supprimés des modèles de compte de résultat. Alors Jean-Marie, quelles sont les conséquences liées à l'abandon de cette technique utilisée par de nombreuses entreprises ?
Alors en pratique, les comptes de transfert de charges sont utilisés pour diverses opérations. Pour rappel, actuellement, l'article 946 du PCG indique que les comptes de transfert de charges sont utilisés à titre dérogatoire si les entités ne sont pas en mesure, à l'origine de l'enregistrement de certaines dépenses, de les comptabiliser en correct compte de charges ou d'immobilisation. Dans ce cas, les transferts dans un second temps dans les comptes de charges ou d'immobilisation adéquates en les inscrivant au débit de ces comptes par le crédit du compte 79 transfert de charges. Il ne précise pas davantage l'utilisation des comptes de transfert de charges. L'ANC, dans son projet de règlement, n'a pas prévu de nouveau schéma d'écriture. Elle s'est simplement contentée de préciser que les transferts de charges sont supprimés des produits et qu'il sera possible de procéder en deux temps, avec l'enregistrement par nature en débitant un compte de charges, puis un ajustement au crédit de ce compte de charges. L'entité aura alors la faculté de créer des comptes avec une terminaison 9 à cet effet. Afin d'anticiper en pratique les conséquences de cette évolution, une analyse au cas par cas des transactions devra être réalisée pour apprécier le traitement comptable adéquat. Car en effet, toutes les opérations actuellement en transfert de charges ne doivent pas forcément venir créditer les postes de charges concernés.
Alors, bon, donc, pas si facile que ça de visualiser ce que ça peut donner. L'ANC a souhaité publier des fiches explicatives en sus de son projet de règlement, lesquelles contiennent quelques exemples illustratifs. Jean-Marie, est-ce que tu nous les présentes ?
Oui. Alors, d'abord, la comptabilisation de l'étalement des frais d'émission des emprunts, qui est l'un des cas de figure classiques dans lequel la technique du transfert de charge est actuellement appliquée. Lors de leur paiement, les frais d'émission d'emprunt sont enregistrés en frais bancaires. Lorsque l'entité retient l'étalement, l'article 944-48 du PCG actuel prévoit l'enregistrement d'une telle charge au débit du compte 481, charge à répartir sur plusieurs exercices, en contrepartie du compte 79, transfert de charge. À la clôture de chaque exercice, le compte 481 est crédité par le débit du compte 681-2, dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir, du montant de la quote-part des charges incombant à cet exercice. Le nouveau traitement impliquera la comptabilisation de ces frais directement au débit du compte 481, frais d'émission d'emprunt. Notons que le 481 sera crédité à la clôture de chaque exercice par le débit du compte 686-2, dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt, toujours du montant de la quote-part des charges incombant à l'exercice. Il y a donc à la fois un traitement comptable plus direct, mais aussi un nouveau classement de la charge, puisqu'il s'agira désormais d'une charge financière et non plus d'exploitation. Un autre exemple porte sur la refacturation des charges de personnel, qui était parfois en pratique enregistrée en transfert de charges, bien que nous n'ayons jamais soutenu cette voie dans le cadre de nos positions d'auteur. Les refacturations directement liées à des charges de personnel seront désormais à inscrire dans un compte 708-4, mise à disposition de personnel facturé. D'ailleurs, d'une manière générale, les refacturations de biens ou de prestations de services à des tiers dans le cadre de contrats inscrites parfois actuellement en compte 791 seront inscrites au compte 708, produits d'activités annexes. Autre cas de figure, avec les remboursements reçus de l'État ou d'un tiers, directement en compensation de charges de personnel. Désormais, ils seront systématiquement enregistrés au crédit du compte 649, remboursement de charges de personnel, y compris en cas de remboursement forfaitaire et non seulement de sommes précises. Le dernier exemple qui est donné par l'ANC dans cette fiche explicative concerne les indemnités d'assurance. La perception d'indemnités d'assurance à la suite d'un sinistre sera comptabilisée au compte 758-7, sauf celles reçues en compensation de la destruction totale ou du vol d'une immobilisation qui seront comptabilisées au compte 757, produit des cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles. Alors, par ailleurs, même s'il ne figure pas dans la liste des exemples de la fiche explicative, nous pouvons relever quelques cas classiques de l'usage de transfert de charges. Tout d'abord, la comptabilisation des avantages en nature. Plus précisément, le compte 791 est souvent utilisé pour neutraliser les avantages en nature. Il devrait pouvoir être remplacé par le crédit du compte initialement débité pour les charges comptabilisées à l'origine, donc par exemple une charge de loyer payée pour le compte du salarié, et le compte 708 pour les charges non comptabilisées à l'origine, logement gratuit par exemple. Cette solution compatible avec ce projet de texte est celle déposée dans une ancienne doctrine du CNC. Il faut relever également les coûts d'emprunt à incorporer dans le coût des actifs lorsque cette option est retenue par l'entreprise. À notre avis, il faudra créditer les charges financières en créant un sous-compte avec une terminaison neuve. L'utilisation du compte 72 ne nous semble pas être la bonne solution car elle majore de façon fictive le résultat d'exploitation. Nous avons aussi le transfert des charges par nature d'exploitation, mais à classer en exceptionnel, car issu d'opérations non liées à l'exploitation courante de l'entreprise. De même, il faudra à notre avis créditer les charges initialement débitées en créant un sous-compte avec une terminaison neuve. Enfin, un point d'intention à avoir à date, qui est le reclassement en frais de personnel des dotations aux provisions relatives à l'attribution d'actions gratuites et de stock options. Si l'on suit la logique de créditer le compte initialement débité avec un sous-compte neuf, cela reviendrait à venir créditer le compte 68 de dotation aux provisions. Or, cela viendrait créer des perturbations dans les variations du tableau des provisions. L'ANC ne s'étant prononcé sur ce cas précis, c'est un sujet qui va être à suivre et qui n'est pas tranché à date.
Merci. Cette liste illustrative n'est certainement pas exhaustive. En effet, le contenu des transferts de charges étant très divers, il est difficile de pouvoir couvrir l'exhaustivité des cas de figure d'utilisation de ces transferts de charges. Nous ne manquerons pas au cours des prochaines semaines, dans le cadre de nos publications, de compléter avec d'autres exemples pratiques. Alors, s'agissant de la fiscalité, quelles sont les éventuelles conséquences à anticiper quant à la suppression de la technique de transfert de charges, Stéphane ?
Actuellement, les refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges, tout comme les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, sont inclus dans la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul de la CVAE. Les comptes qui seront utilisés en remplacement des comptes de transfert de charges pourront également être inclus dans les composantes de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE. Il conviendra donc d'être attentif aux comptes que les entreprises choisiront d'utiliser en remplacement. Par exemple, les indemnités d'assurance couvrant la destruction d'immobilisation sont actuellement exclues du calcul de la CVAE car considérées comme des éléments exceptionnels du résultat. Ce ne sera plus le cas avec un classement en 757 de ce type d'indemnité. Sauf à démontrer qu'il s'agit d'un produit directement lié à un événement majeur et inhabituel. En pratique, globalement, peu d'impacts sont néanmoins attendus, notamment parce que les refacturations de frais se trouveront désormais incluses dans le chiffre d'affaires et donc entreront automatiquement dans la valeur ajoutée. C'est déjà le cas puisque les transferts de charges correspondant à des refacturations sont expressément inclus dans le calcul par le BOFIP. Par ailleurs, la nouvelle mécanique consistant à créditer les comptes de charges pour les reclasser dans une autre catégorie de charges permettra d'exclure automatiquement du calcul de la valeur ajoutée les reclassements de charges non déductibles. C'est déjà le cas, puisque les transferts de charges non déductibles, notamment les transferts de charges de personnel ou financiers, sont déjà exclus par le BOFIP là également. Mais surtout parce que l'impact de ces modifications sur la CVAE sera certainement limité, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, dans la partie sur le résultat exceptionnel, en raison de la suppression programmée de cet impôt par le projet de loi de finances pour 2023. Autre impact possible, celui de la participation, notamment du fait du nouveau traitement des remboursements de l'État, voire des autres exonérations désormais à classer obligatoirement au crédit des comptes de charges de personnel, mais qui pouvaient auparavant être classés en transfert de charges. Pour rappel, la participation est basée sur une formule de calcul impliquant notamment la masse salariale et la valeur ajoutée. Actuellement, en pratique, le Code du travail ne prévoit pas de tenir compte des transferts de charges. Ceux-ci ne sont donc pas déduits des postes de charges de personnel ou de charges financières, par exemple, et ce même s'ils concernent ces comptes. La nouvelle mécanique d'ajustement des comptes de charges par le crédit des comptes initialement débités, plutôt que par un compte de transfert de charges, pourrait donc avoir un impact direct sur le montant de la valeur ajoutée servant au calcul de la participation.
Merci Stéphane. Voyons maintenant quelles sont les nouveautés concernant le plan de compte lui-même. Le projet de règlement prévoit donc la définition d'un niveau adéquat d'utilisation du plan de compte et la mise à jour de la nomenclature des comptes. Alors, on va passer quelques changements au niveau de ce plan de compte. Donc, quatre principaux axes de ce changement. Le plan de compte prévoit d'une part d'évoluer pour répondre de manière plus satisfaisante aux besoins des entités, mais aussi avec l'objectif de digitaliser les états financiers. La nomenclature comptable fera l'objet d'une mise à jour de sorte à supprimer les niveaux de compte du système développé et du système abrégé qui figure dans le PCG actuel. Le but est ainsi de ne maintenir qu'un seul plan de compte, c'est-à-dire actuellement le système de base. Les comptes dont l'objet est devenu obsolète ou dont le niveau de granularité paraît trop fin seront supprimés. Et le nouveau plan de compte comprend ainsi des comptes en caractère normaux qui seront d'utilisation obligatoire et des comptes qui seront en caractère italique dont l'utilisation sera facultative. Autre point à relever, une entité peut toujours ouvrir toute subdivision nécessaire lorsque les comptes prévus par le plan de compte ne suffisent pas à l'entité pour enregistrer directement toutes ces opérations. En outre, la nouvelle définition du résultat exceptionnel entraîne une mise à jour de la nomenclature des comptes. Les subdivisions actuelles des comptes 67 et 77 seront reclassées en comptes contribuant à la formation du résultat courant. C'était une des questions du chat. Par exemple, les subdivisions des comptes 67 et 77 liées à la cession d'éléments d'actifs sont remplacées par des subdivisions des comptes 65 et 75, donc autres produits et charges de gestion courante, ou 66 et 76 pour les produits et charges financières. Autre exemple, pour le compte 777, quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice, qui est remplacé par le compte 747 avec le même libellé. Et c'était une de vos questions aussi. Donc, la réponse, c'est que ce compte maintenant est considéré comme du résultat courant. Même chose pour les transferts de charges. Leur disparition des comptes de produits entraîne une mise à jour de la nomenclature des comptes. L'idée directrice sous-jacente à cette mise à jour du plan de compte est de permettre un passage simplifié de la balance générale à la présentation normalisée des documents de synthèse. Au-delà donc de cette nouvelle nomenclature comptable, les modèles des états financiers ont été aussi revus et modernisés. Jean-Marie, quelle est la raison de ces changements et en quoi est-ce qu'ils consistent ?
Alors, pour rappel, actuellement, le plan comptable général prévoit 7 modèles de bilan et 6 modèles de compte de résultat. Il prévoit notamment un bilan avant et après répartition en liste et en tableau, un compte de résultat en liste et en tableau, tout cela avec 3 systèmes, le système de base, le système abrégé, le système développé. Il apparaît que le bilan en liste et après répartition du résultat ainsi que le compte de résultat en tableau et les états de synthèse du système développé ne sont pas vraiment utilisés par les entreprises. Donc, maintenir un grand nombre de modèles peut nuire à la comparabilité des comptes annuels et complexifier leur mise à jour. Par conséquent, le projet prévoit de conserver uniquement 2 modèles de bilan et de compte de résultat par système. Il s'agira d'un modèle de bilan en tableau avant répartition pour le système de base et le système abrégé, et un modèle de compte de résultat en liste pour le système de base et le système abrégé. Donc, seront supprimés les modèles de bilan en liste et après affectation de résultats, les modèles du compte de résultat en tableau et tous les modèles du système développé. Autrement dit, une fois que vous avez choisi le système abrégé ou de base, vous n'avez plus le choix sur le modèle à retenir pour établir votre bilan et votre compte de résultat. Alors, une précision néanmoins, toutefois, il faut noter que le code de commerce prévoit la faculté de présenter un compte de résultat en tableau. Par conséquent, bien que le projet de règlement en supprime le modèle, il demeurera toujours possible en principe de retenir une telle présentation. Les modèles d'état financier conservés pour le système de base et le système abrégé seront modernisés. Les rubriques sont plus clairement identifiées, certains postes sont réorganisés, les sous-totaux du bilan sont nommés de façon à définir certaines notions par les postes les composants. Concrètement, par exemple, le total 1 de l'actif du bilan sera désormais nommé total de l'actif immobilisé. Même chose pour le total 1 du passif, qui deviendra total des capitaux propres. Alors, à noter que les entités pourront utiliser des modèles de bilan et de compte de résultat plus développés si elles respectent les modèles figurant dans le PCG, mais décident d'apporter plus d'informations. En outre, un sujet récurrent de présentation est explicitement tranché. Lorsqu'un poste de bilan ou de compte de résultat ne comporte aucun montant, ni pour l'exercice, ni pour l'exercice précédent, il est autorisé de ne pas mentionner ce poste.
Oui, ça c'est une petite amélioration parce qu'on avait toujours cette question de lignes qui encombraient, entre guillemets, les bilans et les comptes de résultats. Merci pour ce recensement des principaux éléments de la modernisation. Autre point important du projet, c'est l'introduction en infra-réglementaire de tableaux de passage entre le plan de compte et les rubriques des postes de bilan et du compte de résultat pour le système de base et le système abrégé. Ainsi, l'exhaustivité des comptes dont l'utilisation est obligatoire, ceux qui seront donc imprimés en caractères normaux, sont dorénavant rattachés à un poste du bilan ou un poste du compte de résultat. Le PCG acte ainsi pour la première fois une table de correspondance. Donc, c'est un point que nous attendions. Alors, depuis, on avait nos propres tables de correspondance, mais d'ores et déjà, on sait que le nouveau le nouveau plan qui va paraître aura la codification nécessaire inclue dans le règlement. Alors, nous avons abordé les sujets de modernisation du plan de compte et des états financiers, mais quid de la présentation des informations dans l'annexe, Jean-Marie ?
Oui, alors les objectifs de cette nouvelle présentation de l'annexe sont de faciliter la lecture des comptes et de permettre à l'utilisateur de retrouver facilement une information et de la comparer. Les révisions visent à préciser et homogénéiser les informations demandées dans l'annexe, notamment via la mise en place de tableaux normés. Ce sont donc des évolutions portant essentiellement sur la forme de l'annexe. Ce travail de simplification a permis de présenter les informations de l'annexe sous forme de tableaux normés, comme indiqué à l'instant. Deux types de modèles existent. Première catégorie, les modèles à caractère obligatoire, car figurant directement dans les articles du PCG, lesquels ayant force réglementaire. Parmi ces tableaux obligatoires, il y a par exemple le tableau des amortissements. Dans ce nouveau format, il sera prévu d'insérer directement dans le tableau une information sur la durée ou le taux d'amortissement, ainsi que le mode d'amortissement. Nous pouvons également citer d'autres exemples de tableaux obligatoires, comme le tableau des filiales et participations, pour lequel l'ANC a supprimé la mention peu explicite qui permettait de présenter des informations globales pour les filiales dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société, lorsque cette dernière a annexé à son bilan un bilan des comptes consolidés. Un nouveau tableau pour les crédits d'impôt a également été créé. Et enfin, dernier exemple, il existera également un tableau des coûts d'emprunt incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations, lequel permet de préciser le montant des coûts d'emprunt incorporés, mais aussi le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt pouvant être incorporés en cas de coûts non attribuables directement à l'acquisition ou à la production d'une immobilisation. Alors, il ne s'agit ici que de quelques exemples des différents modèles obligatoires dont vous voyez la liste détaillée à l'écran. La seconde catégorie est constituée par les modèles à caractère indicatif, qui, eux, figurent en commentaire infraréglementaire du projet de règlement. Sans en dresser une liste exhaustive, voici à l'écran un recensement de modèles facultatifs. Ce sont par exemple les tableaux des impacts suite au changement de méthode, changement d'estimation comptable ou correction d'erreur, ou encore de variation de la valeur du portefeuille de TIAP, ou enfin le tableau de variation des capitaux propres. Parmi les modèles à caractère indicatif, le projet de texte présente également les modèles de tableaux de financement établis soit sous la forme d'un tableau de flux de trésorerie ou d'un tableau des emplois-ressources. L'ANC, d'ailleurs, préconise aux entités d'établir le tableau de financement sous la forme d'un TFT.
Et vous l'aurez noté, c'est dans les modèles facultatifs. Donc, on l'a compris, restreindre le choix des modèles de bilan et de compte de résultat, imposer des modèles de tableau pour l'annexe, tout ça, c'est pour améliorer la comparabilité entre sociétés, mais aussi pour chaque société, la comparabilité d'une année sur l'autre, avoir le même type d'information sous le même format. Et c'est aussi un moyen permettant de faciliter la digitalisation des états financiers, le bilan, le compte de résultat, mais aussi l'annexe. Alors, s'agissant de la comparabilité des données, est-ce que l'ANC a précisé les modalités de l'établissement des premiers états financiers modernisés ? Jean-Marie ?
Alors, non, pas encore. Tout d'abord, l'ANC donc, ne s'est pas prononcé sur les modalités de présentation de la colonne N-1. Évidemment, lors du premier exercice d'application, le bilan et le compte de résultat de l'exercice devront être établis en conformité avec les modèles figurant dans le règlement. La question sera de savoir comment présenter la colonne relative aux données de l'exercice précédent, compte tenu du principe d'intangibilité d'ouverture prévu par le Code de commerce. L'ANC doit donc trancher entre plusieurs vues. La première vue serait de présenter la colonne N-1 telle qu'elle a été arrêtée et publiée lors de l'exercice précédent, donc sans aucun retraitement des postes. Dans ce cas, une information en annexe devrait permettre au lecteur de comprendre les retraitements de présentation opérés à l'ouverture pour passer de l'ancien format de compte au nouveau. L'autre vue serait de présenter la colonne N-1 avec le nouveau format en reprenant les données de l'exercice précédent. Dans ce second cas, figurerait en annexe le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent avec une information sur la nature des changements de présentation opérés. Alors, une alternative à ces deux vues que je viens de présenter pourrait être de prévoir trois colonnes avec la colonne N, une colonne N-1 retraitée selon les dispositions du nouveau règlement et puis une colonne N-1 telle que publiée si les formats de présentation sont suffisamment comparables. À date, le débat demeure encore ouvert, mais l'ANC devrait prochainement prendre position sur le sujet. En ce qui concerne le TFT évoqué tout à l'heure, donc tableau facultatif, lorsque l'entité décide de présenter dans l'annexe un tableau des flux de trésorerie, elle pourrait vraisemblablement présenter le tableau de flux de trésorerie sans colonne comparative au titre de l'exercice précédent. Sur ce point, l'ANC devrait aussi communiquer prochainement. En effet, comme indiqué en introduction, il est prévu que le collège de l'ANC se prononce d'ici fin 2022 sur les modalités d'application et d'entrée en vigueur du texte.
Donc, dernière partie, d'un point de vue opérationnel, le projet va donc avoir des conséquences importantes et compte tenu du nombre important de questions que nous avons reçues sur le chat, on voit bien que le sujet va continuer à susciter beaucoup d'interrogations. On a, avec Jean-Marie, préparé un résumé des conséquences anticipées, bien sûr à ce stade, hein, et on vous propose quelques pistes de réflexion sur comment les entreprises peuvent se préparer aux changements attendus. Jean-Marie ?
Oui. Alors, dans le cadre de l'anticipation de ces changements, il paraît nécessaire de faire un diagnostic des impacts du nouveau règlement sur votre entité. Ce diagnostic pourrait s'articuler autour de trois axes principaux. Tout d'abord, le premier volet consiste à s'interroger sur le classement des éléments dans le compte de résultat. Concrètement, il apparaît indispensable de mener une analyse des conséquences de la nouvelle définition du résultat exceptionnel sur le contenu actuel et historique du résultat exceptionnel, ce afin d'identifier des changements de pratique à opérer. Par ailleurs, s'agissant des transferts de charges, là aussi, il convient d'identifier la nature des opérations qui figurent actuellement pour déjà réfléchir aux nouveaux comptes qui devront être utilisés lors de la disparition de cette technique. Alors, au-delà de ces aspects de mécanique comptable, une réflexion de chaque société est à mener sur les impacts de ces reclassements, sur les chiffres clés, la détermination des ratios bancaires ou encore le calcul de certains bonus, par exemple. Et bien sûr, sans oublier les potentiels impacts en termes de CVAE ou de participation salariale dont vous a parlé tout à l'heure Stéphane. Ensuite, à notre avis, un second volet de réflexion est à mener sur les états financiers. En premier lieu, le passage obligé est d'identifier les différences de présentation entre les états financiers actuels de la société et les modèles fournis par le nouveau règlement. Ce, afin d'anticiper les points à faire évoluer pour la future mise en conformité. Puis toujours dans cette même logique de chercher à identifier des éléments à modifier pour faciliter la première application du nouveau règlement, passer en revue le contenu de l'annexe telle qu'elle a été établie actuellement est nécessaire. Par exemple, est-ce que l'annexe de l'entité renseigne aujourd'hui l'intégralité des informations requises dans les nouveaux tableaux obligatoires ? Est la première question à se poser. Autre exemple de question qu'il faut se poser, est-ce que parmi les propositions de tableaux facultatifs, certains pourraient être utiles à l'entité pour améliorer la présentation de son information financière ? Et enfin, au-delà de ces deux premiers volets centrés sur l'anticipation des évolutions comptables, il semble judicieux de recenser les différents points clés à anticiper sur le plan purement opérationnel, afin que la première application du nouveau règlement puisse se faire sans accroc dans l'organisation. En pratique, cela va supposer donc de faire un état des lieux des modifications à apporter à des outils ou à des paramétrages dans les systèmes d'information comptable, comme le lien entre la balance générale et les états financiers, mais aussi entre la comptabilité et les formats de reporting interne. La clé dans ce genre de projet étant l'anticipation, notre recommandation est de prévoir un calendrier prévisionnel des mises à jour IT, du logiciel comptable et des outils de reporting, soit par les éditeurs, soit en interne en cas de développement d'outils maison.
Comme toujours, La clé d'une transition réussie réside toujours dans l'anticipation. Pour terminer le tour d'horizon et dans quelle mesure les changements introduits par le nouveau règlement pourraient impacter les comptes consolidés établis en normes françaises, nous avons déjà évoqué une première partie, dans la première partie, donc les conséquences liées à la nouvelle définition du résultat exceptionnel dans les comptes consolidés. D'autres changements introduits par le nouveau règlement vont également impacter les états financiers comptes consolidés, puisque, on le rappelle, il n'y a aucune disposition spécifique de l'ANC dans le règlement ANC 2020-01, par exemple sur ce qu'on faisait sur les transferts de charges. Donc, sans en dresser un inventaire exhaustif et pour citer quelques exemples, le reclassement de l'étalement des frais d'émission d'emprunt du résultat d'exploitation vers le résultat financier, ou encore l'ajout de nouveaux tableaux dans l'annexe qui, sous réserve du caractère significatif de l'information, devront également figurer dans l'annexe des comptes consolidés. Alors, nous avons terminé la présentation des nouveautés qui sont apportées par le texte de modernisation des états financiers. Je vous rappelle que vous pouvez rester en contact avec l'actualité comptable grâce à toutes nos publications aux éditions Francis Lefebvre, dans notre mensuel Feuillet rapide comptable et puis notre site internet. S'agissant du thème de la Webex de ce jour, les dernières nouveautés à venir seront à suivre via nos articles dans le Feuillet rapide comptable. Il y a un article d'ailleurs qui est prévu dès le FRC là, du mois de novembre sur la suppression des transferts de charges. Il y a bien sûr notre Memento comptable 2023, il est déjà disponible en précommande sur la boutique des éditions Francis Lefebvre et il sera disponible à compter du 24 novembre 2022 et vous pourrez aussi vous inscrire aux sessions des 8 et 22 novembre prochains pour préparer vos arrêtés de compte. Et dans ce cadre, vos inscriptions se font sur le site des Échos. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour prendre vos questions. Juste avant, pour nos éditeurs en interne, le code ATTEND, c'est le XFZ7. Alors, pour les questions, donc on a reçu énormément de questions pendant cette Webex, beaucoup de questions sur le résultat exceptionnel. Alors, un plan de sauvegarde pour l'emploi peut-il être qualifié d'événement majeur et inhabituel ou au contraire être impossible car forcément lié aux difficultés de l'activité courante? Je pense que c'est pour toi, Jean-Marie.
Oui, alors c'est vrai que sur le principe, c'est probablement dans la majorité des cas un événement qui n'est pas inhabituel. Pourquoi ? Bah parce que il est généralement difficile de détacher le plan de sauvegarde de l'activité normale et courante de l'entité. Alors après, une fois qu'on a dit ça, dans de rares cas, il serait sûrement possible de démontrer que le PSE résulterait d'un événement majeur et inhabituel. Un exemple qui me vient, si un incendie a frappé l'usine de la population concernée par le plan et que les difficultés financières suite à cet incendie sont telles que le PSE est inévitable, là, ça pourrait peut-être s'entendre. Mais bon, tout ça, ça repose vraiment sur une analyse précise au cas par cas des faits et circonstances, et je crois que c'est la réponse avant tout à retenir.
Alors, autre question sur l'exceptionnel. En pratique, jusqu'à quand doit-on remonter pour apprécier le caractère inhabituel? On a eu aussi des questions sur c'est quoi l'histoire de la fréquence, enfin voilà. Oui. Jean-Marie, est-ce que tu peux apporter un éclairage là-dessus?
Oui, alors ça c'est une excellente question. L'ANC s'est évidemment bien gardé de définir une période d'observation des événements. Alors, comme on l'a vu, c'est contenté d'indiquer qu'un événement est présumé inhabituel lorsqu'il ne s'est pas produit auparavant sur les derniers exercices et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices. Donc, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, car c'est là, pour le coup, c'est vraiment une pure affaire de jugement de la direction. Et bon, si on fait un parallèle, une start-up qui n'a que 5 ans d'existence ne jugera sans doute pas de la même manière un événement qu'une entreprise industrielle avec plus de 100 ans d'historique. D'où finalement l'importance, je dirais, de bien justifier le raisonnement lors de l'appréciation de la nature d'un événement.
Ok. Alors, celle-là, je vais la prendre. Toujours sur le résultat exceptionnel, la reprise d'une dotation ou provision comptabilisée au titre d'un litige, par exemple, en résultat exceptionnel N-1, pourrait-elle être classée en résultat exceptionnel N avec le nouveau texte, même si le litige ne constitue pas un événement majeur et inhabituel, tel que vous l'avez décrit. Alors, si je comprends bien la situation, en fait, en N-1, on fait une dotation en exceptionnel, en N, on applique le nouveau texte, et on se pose la question de où mettre la reprise de provision, alors que l'objet de la provision ne correspond pas à un événement majeur et inhabituel. Alors, l'ANC n'a apporté aucune précision sur ce point, et cela fera sûrement partie des sujets. On vous a dit que l'ANC devait sortir des compléments de texte, des commentaires sur le texte pour la mise en application pratique d'ici la fin de l'année. Donc, je pense que ça fera partie de ces précisions. Bon, clairement, on peut toujours avoir deux vues, hein. La première vue, c'est de dire, on sait le passé, on avait un jugement, c'était classé en exceptionnel, donc par symétrie, je reprends en exceptionnel. Ok. La seconde vue pourrait être de dire, maintenant que vous appliquez le nouveau règlement, l'événement étant un événement majeur et inhabituel, tout ce qui est reprise de provision et les charges réellement courues sont à classer soit en exploitation si effectivement à l'origine vous ne respectez pas les critères événements majeurs et exceptionnels, soit effectivement vous requalifiez en disant si bien sûr c'est un événement majeur et inhabituel, donc vous ferez votre reprise là où vous aviez fait votre dotation. Cette solution aura la facile, ce sera facile en fait, parce que vous n'aurez pas besoin de refaire l'historique de quand est-ce que vous avez doté vos provisions. Mais dans tous les cas, il faudra, je pense que l'ANC dira que de toute façon, il faut une précision dans l'annexe sur comment vous avez traité le cas. Alors, une question pour toi, Jean-Marie. Sur les transferts de charges, avec l'ouverture de l'ANC sur une possibilité de créditer les comptes de charges, l'usage du compte 72, production immobilisée, sera-t-elle toujours obligatoire ou pourra-t-on venir créditer directement les postes de charges concernés en contrepartie du débit de l'IMO afin d'avoir une présentation des postes PLN net des coûts activés? Donc, en gros, est-ce qu'on peut ne plus utiliser les comptes 72 et directement faire du net dans le PNL?
Oui, ok. Alors, juste avant de répondre à cette question, on a des demandes sur nos auditeurs internes. Donc, je vais répéter le code attend. C'est XFZ7. Donc, XFZ7. Alors, oui, pour la question, alors je vois bien la logique. Quand on produit soi-même une immobilisation, on enregistre par exemple la main-d'œuvre en charge de salaire, et puis comme pour les transferts de charges, on utilise le compte 72 pour basculer en immobilisation. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes, le texte facilite le fait de créditer les comptes de charges, mais seulement dans certains cas, et ce n'est pas prévu pour la production immobilisée. Le texte ne remet pas en cause du tout l'usage du compte 72. On parle bien d'une suppression des transferts de charges, mais aucunement de la production immobilisée. Donc, en conclusion, en cas de production d'Enimo, c'est bien toujours ce mécanisme qu'il faudra utiliser.
Ok, c'est clair. Je vais prendre une dernière question parce que là, ça y est, on est au top du temps. Sur le résultat exceptionnel, dans l'hypothèse où on a une correction d'erreur qui serait jugée comme liée à l'activité normale et courante, et n'étant donc pas liée à un événement majeur et inhabituel, est-ce qu'il est possible de classer les impacts de cette correction en résultat courant ? Ben, la réponse est très simple, c'est non, puisque les corrections d'erreur font partie des quelques rares éléments qui, par nature, seront de l'exceptionnel. Donc, quelle que soit l'origine de votre correction d'erreur, elle passera en exceptionnel. Donc voilà, avec cette question, ben, nous clôturons la session. Merci à tous. Si vous pouviez rester connecté encore quelques secondes pour répondre au questionnaire de satisfaction, c'est important pour nous. Merci, à bientôt.